Vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est le moment de retrouver nos invités. Alors pour aujourd'hui, trois invités dans notre studio à Fréquence Mistral Digne. C'est l'association France-Népal Connexion qui est représentée par sa présidente et sa trésorière, sa présidente Irina Soldatova et sa trésorière Patricia Guégan. Bonjour et bienvenue à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
En votre compagnie, juste à côté, Timothée Humbert, réalisateur, également intervenant au lycée Alexandra d'Avinel. Bonjour Timothée Humbert.
Bonjour.
Vous étiez déjà venu à Fréquence Mistral pour parler un petit peu d'un documentaire. Alors avant d'en venir au projet qui vous a amené à collaborer tous les trois, on va peut-être commencer par présenter l'association France-Népal Connexion. C'est une toute jeune association, j'apprends qu'elle a à peu près un an, c'est ça. Est-ce que vous voulez bien nous présenter un peu ses missions?
Merci, oui, tout à fait. C'est tout petit, encore au niveau de l'âge, mais au niveau de l'envie, des ambitions, c'est très grand. Donc, on a un an à peine, notre association, elle était créée il y a un an. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est le lien entre deux pays, en fait, le Népal et la France. C'est pour ça que ça s'appelle France-Népal Connexion. Et nos missions, c'est humanitaire, aussi une mission de soutien, le soutien des enfants, des femmes dans la vallée qui se trouve dans les Himalayas népalaises. Et le lien, il est entre Himalayas népalaises et aussi la vallée de Beauvaisé et tout ce qui est autour. En fait, le siège de notre association se trouve à Beauvaisé.
Un parallèle donc à faire entre la vallée du Verdon et une vallée qui se situe dans l'Himalaya népalais. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce parallèle, peut-être Patricia Guégan?
Oui, bonjour et merci de nous recevoir. J'ai eu la chance de faire un trek au Népal et de découvrir ce pays extraordinaire. Avec Irina, nous en avons reparlé. Elle aussi a eu la chance d'aller à Katmandou et d'aller dans ce village de Kerung. Et au retour de ce voyage qu'elle a fait là-bas, elle m'a contactée et elle m'a dit « Est-ce que tu aimerais que nous fassions quelque chose ensemble pour ce village qui est si beau ?» Et cette vallée, de mettre en avant ce lien qui pourrait avoir et cette ressemblance et ces différences, parce que ce sont deux vallées, bon, plus hautes au Népal, mais il y a quand même l'amour de la montagne, il y a des villages qui sont avec des activités, beaucoup d'enfants au Népal. Chez nous, bon, c'est beaucoup plus petit, mais il y a aussi des écoles, donc l'idée nous est venue de faire ce parallèle. Et puis ensuite, nous avons rencontré Timothée au cours d'une conférence. Donc, le projet est né de la rencontre tous les trois. Nous sommes partis sur l'idée de développer cette envie de montrer, avec beaucoup de bienveillance, bien sûr, ces villages qui sont quand même exceptionnels et ces vallées qui ont des ressemblances, mais qui sont particulières dans leur, encore dans leur côté essentiel.
Alors, on va se tourner vers Timothée Humbert. Est-ce que vous voulez, Timothée, présenter votre activité, peut-être vos précédents travaux?
Oui, alors bonjour, merci de nous recevoir. Donc moi, je suis basé à Digne-les-Bains et donc comme vous avez pu le dire tout à l'heure, je suis intervenant au lycée Alexandra d'Avinel dans les classes de cinéma et j'ai mon entreprise de vidéaste photographe. Et donc l'année dernière, j'ai pu partir une première fois au Népal pour réaliser un documentaire où j'ai pu rencontrer Mathieu Ricard. Et par la suite, j'ai fait une conférence en fait au Centre culturel René Char en partenariat avec les rencontres cinématographiques qui sont mes partenaires. Et donc, grâce à cette conférence, à la suite de cette conférence, j'ai pu rencontrer Patricia et Irina qui m'ont présenté ce projet de repartir au Népal pour un nouveau documentaire et donc de pouvoir mettre en avant le projet humanitaire qu'elles ont, c'est-à-dire aller aider les enfants de cette école basée à Kerung dans l'Himalaya népalais. Donc à ça, on a passé pas mal de journées ensemble à réfléchir à une idée de scénario, comment on pourrait le mettre en avant, essayer de faire que ça ne soit pas un simple reportage pour juste montrer le départ et l'arrivée au Népal, mais d'essayer de vraiment créer une histoire. Et de là, on a eu cette idée de créer un regard croisé entre cette vallée qui est donc le siège de l'association autour de Beauvaisé, Colmar, toute cette zone-là. et de mettre en avant en fait une jeune fille d'environ une dizaine d'années, donc de mettre en avant une jeune fille bénévole de l'association et de mettre aussi en avant une jeune fille au Népal, donc qui est dans l'école de Kerung, et de à travers ce regard croisé, de pouvoir faire un documentaire et de présenter deux profils, de mettre en avant aussi, surtout, ben voilà, ces deux jeunes filles avec une vie complètement différente, mais malgré tout avec, avec des activités qui peuvent se ressembler, de pouvoir mettre en avant ça et d'en faire un documentaire et de raconter donc l'histoire de cette association et de l'aide qu'elles apportent dans ce village.
Donc la rencontre s'est faite lors de cette conférence. Ce qu'il y a d'inédit, c'est justement la dimension audiovisuelle du projet. Mais Patricia et Irina, vous aviez déjà une expérience dans l'humanitaire.
Oui, bien sûr. C'est justement, on a déjà été 3 fois au Népal. Et c'est vrai que c'est beaucoup pour une jeune association. On a ramené les vêtements, on a ramené des médicaments, on a ramené de l'argent. On a soutenu la construction d'un temple bouddhiste dans ce village, malgré que ce n'est pas très grand village, mais le temple, c'est très important pour eux. Et c'est un soutien très important. Après, on a ramené des vêtements. On était en collaboration, et on est toujours en collaboration avec l'école de ski de Fudalos. Et c'est eux qui nous ont fourni beaucoup de vêtements chauds pour les Sherpas, pour les enfants. Et donc, ça, c'était un grand soutien. Après, on a ramené aussi les vêtements des bébés et les médicaments. Donc, tout ça, c'est vrai que ça apparaît peu, mais pour eux, c'est important et ça a du valeur pour eux.
Oui, à chaque fois, nous amenons en soute nos valises, c'est-à-dire 25 kilos à peu près, entre 20 et 25 kilos de vêtements. Nous avons nos propres affaires en cabine, et là, ça sera le cas si Timothée vient également. Il amène tout son matériel avec lui. Dans les soutes, nous avons des affaires pour donner aux enfants et les médicaments. Donc, c'est toute une expédition, d'où l'idée d'avoir mis une cagnotte en ligne pour aussi d'effrayer notre réalisateur, donc, parce que tout est bénévole. Nous allons expliquer comment ça se passe, Timothée, si tu veux expliquer.
Oui, alors c'est vrai que la technique, elle est très importante dans le projet. C'est parce que, comme disait Patricia, je vais devoir prendre tout mon matériel, mais le matériel audiovisuel, on en a vite beaucoup. Donc l'idée, ça va être de pouvoir utiliser donc une caméra avec des micros, avec des cartes mémoire, des batteries. Donc ça fait beaucoup de matériel. Mais l'idée, c'est d'en prendre le moins possible pour pouvoir aider aussi Patricia et Irina à ramener des vêtements qui sont mis sous vide pour pouvoir en ramener un maximum. Donc après, on est limité niveau poids, donc c'est ce qui nous limite. Les suppléments bagages coûtant très cher, on est très limité aussi à ce niveau-là. Par rapport à ce côté technique, donc là, le voyage va coûter, en englobant le billet d'avion, le transport, la logistique, la nourriture, l'hôtel, tous ces frais-là, ça va coûter à peu près 3 500 € par personne. C'est pour ça que le montant de la cagnotte est au niveau de 3 500 €. L'idée de Patricia et Irina, c'est de pouvoir me défrayer au niveau des frais que je vais avoir de transport au niveau de l'avion, des bagages, de la nourriture, parce que le projet sera fait bénévolement. Donc c'était la seule condition qui a été mise entre l'association et moi, c'était de pouvoir au moins être défrayé pour ce projet. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé cette cagnotte qui a bien commencé. Et donc Irina a pris le temps de proposer de nombreuses contreparties en fonction des dons qui vont être faits. Donc si vous donnez 10 €, il y aura une contrepartie. Enfin voilà, il y a plusieurs différentes contreparties en fonction de vos moyens, du budget que vous pouvez mettre. Et voilà.
On a lancé notre cagnotte au début de juillet. Et c'est vrai qu'elle était bien partie. Maintenant, c'est les vacances. Donc, je pense qu'il faudra qu'on insiste un peu pour motiver les gens de participer. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour parler de nos initiatives. Et c'est vrai qu'on voulait remercier Timothée, qui est vraiment bénévole dans ce projet. On sait vraiment combien ça coûte quand on fait le vrai film. Et c'est très, très cher. Et donc, un grand merci. Je profite aussi pour dire qu'effectivement, c'est le trajet qui est tout un voyage, parce que c'est pas que l'avion, mais c'est aussi les voitures, les jeeps, pendant quelques heures. Quelques heures, c'est entre 12h et 20h en fonction des météos. Ça m'est déjà arrivé de faire toute la journée et la nuit le voyage parce que c'était inondé. Et quand il fait beau, c'est à peu près 10-12h. Donc, c'est vrai, c'est une vraie expédition.
Oui, c'est une vallée qui a souffert des tremblements de terre, donc les structures ont été emportées, il n'y a pas de pont, donc les jeeps roulent dans le lit de la rivière. Ensuite, il faut monter des cols à 3200 mètres, donc ça tourne beaucoup. Vous imaginez la circulation, les croisements des jeeps, des bus, donc c'est très exotique. Et quand on arrive au village de Kirung, il est très isolé. Donc là, on descend avec la Jeep, puis il n'y a pas de commerce autour. Pour eux, ils vont faire une fois par semaine des commissions Jeep. Donc, on parlait aussi des conditions sanitaires, parce que, par exemple, pour les accouchements, on a vu la salle, il y a une chaise, une table, un seau. Il y a très peu de médicaments. Et si on doit être évacué, il n'y a pas d'hélicoptère. Donc, c'est la Jeep. 13 heures pour aller à Katmandou à l'hôpital. Donc, vous imaginez, quand il y a des complications, c'est pas simple. Il y a deux médecins, deux volontaires, de très, très bons docteurs, je pense, dévoués, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est un village, c'est étonnant. On a été surpris par les écoles, deux écoles. Bon, c'est relié par un pont suspendu. Donc, il y a à peu près 200 mètres à descendre, 300 à remonter. Donc, tout le monde marche à pied. C'est des conditions pour nous spécial aussi pour le tournage, pour Timothée avec le poids des caméras. On dort chez l'habitant, donc il n'y a pas de douche, c'est l'électricité, il y a des coupures. Donc tout ça, on doit en tenir compte. Donc c'est spartiate, mais c'est très très agréable aussi. Il y a une bonne ambiance, les Népalais aiment danser, donc le soir c'est joyeux. C'est très simple la nourriture, mais très sain. Donc voilà, il y a cette particularité que ce n'est pas une vallée touristique. Donc on est pris dans l'ambiance familiale, on est très bien reçus à chaque fois. Et c'est ça qu'on veut montrer, que c'est encore dans son jus. Et ça n'a pas été encore atteint par ce tourisme, malheureusement, qui au Népal se développe au galop. Les pistes arrivent partout, les beaux endroits commencent à être trop fréquentés. Donc là, c'est très différent. Ce documentaire n'a pas une optique de faire la publicité pour un trek. C'est plutôt mettre en parallèle nos deux vallées qui sont avec leurs éléments, leurs bijoux, je dirais.
Oui, c'est pour ça qu'on a choisi les familles, pour pouvoir aussi être immergé dans la vie locale, ici en France et aussi là-bas, pour voir comment c'est parallèle entre deux vies sur la même planète, sur les mêmes, et pas du tout dans les mêmes conditions. Et en même temps, il y a toujours la joie de vivre, il y a toujours cet amour d'enfant, il y a toujours le sourire. Donc, c'est très, très profond. On parle beaucoup de plein de conditions, des choses, mais en fond, on veut parler d'amour. On veut parler d'amour de cet enfant, d'enfance. Et on est tous, au fond de nous, les enfants. Et c'est pour ça qu'on aimerait toucher aussi les adultes et ces petits enfants à l'intérieur, pour montrer qu'on est toujours au fond de nous des enfants.
Alors c'est toute une expédition et une expérience qui a l'air très riche. Vous avez employé le « nous ». Alors là, vous partez tous les trois pour ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'association France-Népal Connexion qui ont participé au projet depuis que ça existe, depuis un an? Ou est-ce que c'est principalement vous deux qui portez ces missions?
Nous sommes partis en mars. Alors, nous avons eu la chance de rencontrer une personne un peu de l'extérieur, mais qui est un ancien moine bouddhiste qui vient de Mongolie, qui nous a permis d'ailleurs de rencontrer le Dalai Lama pour avoir la bénédiction pour notre association. Donc, nous sommes allés à Dharamsala. Et cette personne, Erden, je cite son prénom, est venue avec nous après au Népal. Donc, il nous a aidés à voyager à peu près. Nous ne sommes pas restés très longtemps dans le village de Kirung, mais nous étions trois à ce moment-là. Donc c'était une aide assez précieuse parce que comme c'est loin, on avait tous ses bagages. Donc on s'est investi. Chaque fois qu'il y a des volontaires qui veulent venir avec nous, bien sûr, nous sommes intéressés parce que c'est pas simple. Et cette fois, bon, peut-être nous serons plus que trois. On ne sait pas encore parce qu'il faut organiser tous ces billets d'avion, tous ces... Il faut combiner avec la disponibilité des personnes qui nous reçoivent dans le village. Et nous voulons organiser aussi à Katmandou. Si c'est possible, nous arrivons pour la fête des Lumières à Diwali. Donc c'est un gros événement que Timothée, normalement, aimerait filmer. Puis peut-être faire un bazar, on nous a proposé, pour avoir plus de fonds. Donc combiner tout cela va être assez complexe.
Parce que dans le documentaire, on aimerait intégrer en fait ce passage-là, parce que bon, c'est une fête qui est grandiose autant au Népal qu'en Inde, et donc on aimerait le mettre en avant à travers des images. Et la dernière fois que Irina et Patricia sont allées au Népal, donc il y a 3-4 mois, elles ont pu rencontrer une association de femmes qui aide des écoles d'enfants, donc basées à 2 heures à peu près de Katmandou, je crois que c'était, et donc elles voudraient nous aider aussi, aider l'association, et donc on faire une sorte de kermesse, mettre en avant l'association, faire des projets. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi filmer cette rencontre, filmer ce moment-là, qui est quand même un moment humain qui va être très intéressant. Donc voilà, l'idée, ça va être de filmer ça aussi. On va pas forcément axer trop le documentaire sur le transport, le trajet, parce que le but, c'est pas non plus de le rendre touristique. Donc le but, ça va être vraiment de mettre en avant ce moment-là et le moment de la rencontre avec la jeune fille qu'on a déjà rencontrée, enfin que moi à distance, mais Patricia et Irina l'ont rencontrée, qui a à peu près entre 8 et 10 ans, on ne sait pas exactement, mais entre 8 et 10 ans, et donc on va pouvoir dormir chez sa famille, prendre le temps de filmer un repas de famille, montrer aussi ce que c'est, les différences culturelles, les traditions au niveau de la nourriture, au niveau notamment de la religion, parce que pour la plupart là-bas sont bouddhistes, si je ne me trompe pas, dans ce village. Mm-hmm. Donc voilà, c'est aussi ça l'idée.
Oui, et pour finir la question par rapport à... Oui, on a des adhérents, bien sûr, et on invite tous ceux qui nous écoutent aussi d'adhérer. Ce sera un grand plaisir sur notre site, France Népal Connexion, si vous faites la recherche, ou sur Facebook aussi. Ce sera vraiment bienvenu.
Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes par rapport à ce prochain départ? Quelles appréhensions particulières, quelles sources d'enthousiasme, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comment vous abordez ce prochain voyage?
Ben, en fait, c'est une découverte pour nous, parce qu'on n'a jamais fait. C'est vrai qu'on a dit à Timothée, il faudrait que tu nous expliques un peu comment ça marche. Et c'est une grande expérience, très excitante, je pense que c'est vraiment intéressant. Et surtout, on fait confiance à Timothée, je pense.
Oui, puis c'est très intense, comme on expliquait déjà pour y arriver. Bon, le voyage, déjà venir, on va passer par New Delhi, qui n'est pas notre ville préférée. Donc, on passe quelques jours là. Il faut récupérer du voyage. Ensuite, on reprend l'avion, on va sur Katmandou. Il faut s'adapter de nouveau à Katmandou. Bon, c'est une ville très active, c'est une ville qu'on aime beaucoup. Mais de là, donc, on repart encore sur une grosse journée de route. Et après, on arrive dans ce village quand même à 2006 à peu près d'altitude, avec des conditions, bon, la nuit, c'est très froid, la journée, très ensoleillée. Puis, il y a beaucoup de marches, donc il faut aussi s'adapter physiquement aux conditions là-bas, la nourriture. On se couche très tôt le soir à 8 heures, le couvre-feu, parce qu'il n'y a plus d'électricité. À 6 heures, tout le monde est debout. Donc voilà, il faut qu'on tienne, nous, physiquement. Ça crée des tensions aussi, parce qu'on est quand même chez des habitants. C'est une maison, il y a un petit rideau pour fermer la chambre à coucher. On va dormir tous en groupe. Pour se laver, il y a une douchette au-dessus des toilettes, donc c'est très simple. C'est enthousiasmant et en même temps, c'est vrai que ça nous demande une énergie énorme. Et là, on sera sur 10 jours dans le village, donc ça sera beaucoup plus long que les autres fois. Et en novembre, on ne connaît pas les conditions du mois de novembre. On a été en mars, ça allait. Donc Irina étant allée en hiver, elle sait que c'était très dur en hiver. Donc là, ça va être une découverte. Après, c'est très beau l'endroit. On a une petite colline. On va voir le lever de soleil sur l'Everest, le Manaslu. Tous les 8000 sont... à portée de vue, donc c'est magique. Il y a beaucoup de spiritualité aussi autour de nous, on la sent. Et nous participons aussi au projet de construction d'un temple qui met beaucoup de temps à faire parce qu'il manque de moyens, il manque d'argent. Nous, avec notre association, nous apportons chaque fois même 200 euros. Pour eux, ça leur a permis de peindre les façades, de construire aussi les logements pour les moines autour. Donc, c'est très lent. Ça fait, je ne sais pas, Irina doit savoir plus que moi combien de temps.
Ça fait déjà 3 ans.
Trois ans qu'ils construisent.
C'est la troisième année, oui.
Voilà. Mmh. Petit à petit, ils vont finir. Ce sont à la base des Tibétains qui sont venus dans cette vallée quelques générations avant, mais ils continuent. Il y a plusieurs temples dans la vallée parce qu'il y a plusieurs portions de village, voilà.
Parce qu'elle vit en communauté, en fait. Donc, notre village Kirung qu'on met en avant, c'est toute une communauté d'une grande famille, en fait, oui. qui se déploie. Donc, leur histoire, c'est que c'est de génération en génération. Il y en a des très anciens. Ils ont d'ailleurs très, très grand respect pour les anciens. Oui. Et donc, ils vivent longtemps. Donc, il y en a quand je suis allée la première fois, donc, j'ai rencontré la personne de 14 ans, donc c'est vraiment, vraiment des gens qui vivent bien, malgré leurs difficultés. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi refléter ça dans notre film, pour montrer qu'il y a la joie, il y a beaucoup de soutien, il y a aussi le respect, il y a les traditions qui se transmettent, parce que quand je suis allée la première fois, c'était pas encore dans le cadre de l'association, mais juste pour découverte, je me suis retrouvée au mariage, qui a finalement dû 3 jours. Donc, le premier jour, on voit que le marié. Le deuxième, on voit que la mariée. Et le troisième, ils sont ensemble. Et c'est, voilà, c'est la tradition qui se transmet et ils sont vraiment tenus que ça soit comme ça. Donc, même si les jeunes, par exemple, de 20 ans, ne connaissent pas tout, ils le montrent et ça suit sa route. Donc, voilà, c'est vraiment, on voulait refléter aussi tous ces aspects.
Alors, on voit bien qu'il y a des conditions difficiles. Qu'est-ce qui vous pousse à y retourner? Parce que c'est déjà extrêmement riche, j'imagine, d'y aller une fois. Qu'est-ce qui fait que, on y retourne et puis même on décide de développer le projet en ajoutant, par exemple, un documentaire?
Oui, ça c'est vraiment quelque chose que le cœur, en fait, nous guide. Parce que c'est les gens qui sont très accueillants. Et surtout les enfants, ils sont vraiment magiques. C'est les regards, la chaleur. Moi, ça fait 3 ans, 3 fois que je suis allée, donc au bout d'un an et demi. Donc je voyais déjà les enfants grandir. Ils nous reconnaissent maintenant, donc ils rentrent, ils arrivent avec la joie. Donc pour nous, je pense que c'est aussi cet aspect humain qui est très important.
Oui, c'est tout à fait extraordinaire quand on rentre dans une classe. Les enfants, ils font namasté avec les mains et puis ils commencent à chanter pour nous. Ils s'adressent personnellement à nous. Ils sont émerveillés par tout ce qu'on leur donne. Nous faisons sur une grande table une distribution d'habits. Donc, c'est comme une très grande cérémonie pour eux. On a l'impression d'être d'une délégation, mais ils sont dans le bonheur. On amène quelques bonbons. Et là, c'est magique pour eux. Ils sont tous là avec des sourires. Il y a une bienveillance chez les gens, une gentillesse incroyable.
Comme la gratitude aussi.
Ils aiment danser. Alors, nous sommes invités, nous, à danser. On est vraiment à chaque fois pris dans cette magie. Moi, j'ai dit, le Népal, c'est magique. Je me sens chez moi quand j'arrive là-bas. C'est pas... On retrouve les choses essentielles, on se débarrasse de plein de choses paraissent inutiles, de problèmes, on se dit non mais c'est nous qui n'avons rien compris et eux ils vivent, c'est pas la pauvreté, c'est la simplicité, l'évidence, ils disent toujours bon ben on verra, quand on demande le matin on fera quoi, ben on verra ce soir, c'est comme ça, on sait pas mais... Tout est simple et tout est possible et on s'adapte. Et ça nous permet d'avoir, pour nous les Européens, une souplesse d'esprit qu'on a un petit peu perdu parce qu'on aime régler les choses. Mais là, bon, d'un seul coup, ça part dans une autre direction. On décide d'aller à droite. Le rendez-vous, il est à midi, mais ça peut être 2 heures ou ça peut être en fin d'après-midi. Il n'y a pas de règles fixes.
Et en même temps, il y a beaucoup de... Excuse-moi. Il y a beaucoup de gratitude parce que la première fois quand je donnais juste l'argent, c'était la somme extraordinaire. Ils ont fait tout un rituel de remerciement. Je n'ai même pas compris au départ qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, c'est tout le village qui était rassemblé. On m'a mis au milieu et on m'a mis tous les écharpes. En fait, vous savez, il y a les écharpes de bienvenue et aussi de bénédiction. Donc, j'étais comme un sapin de Noël avec tous les écharpes de chaque habitant. Et c'était impressionnant et c'était très touchant. Donc oui, savoir reconnaître aussi de gratitude, c'est hyper important chez eux.
Et c'est exactement ce qu'on va essayer de mettre en avant dans le documentaire, c'est cette bienveillance, cette joie, cet émerveillement un peu de tout, c'est-à-dire se lever tôt le matin à 6h du matin et de pouvoir voir ces paysages, le lever du soleil. Et c'est à travers tout ça qu'on veut aussi mettre en avant dans ce film, c'est pas seulement l'aide qui est faite par l'association, mais aussi en fait à travers tout ça, pouvoir partager avec les spectateurs ce que Patricia et Irina ont eu la chance de pouvoir vivre et de pouvoir partager ça avec les spectateurs et de pouvoir le faire vivre à distance et d'essayer le mieux possible de faire ressortir ces émotions de joie, d'émerveillement et de bienveillance.
Oui, on te fait confiance que tu vas le faire parce que c'est à travers le regard d'un enfant, c'est hyper important et c'est vrai que enfin, c'est quelque chose d'innocent, c'est pur, et c'est ce regard-là qu'à travers ce regard, on montre le monde. Et on fait voyager parce que le projet, on voudrait diffuser, on voudrait montrer dans les écoles ici et là-bas. Donc, on voudrait faire voyager les petits Népalais au travers de ce film, et aussi les Français, les enfants, pour montrer que l'autre monde existe et comment ça se passe ailleurs.
Vous avez parlé du regard des enfants, puisqu'il s'agit d'un projet documentaire. Timothée Humbert, est-ce que ça représente des défis particuliers du point de vue du travail de l'image, de la photographie ?
Oui, alors l'avantage qu'on a, c'est le fait que je sois déjà allé au Népal l'année dernière, j'ai pu voir un petit peu les choses à faire ou ne pas faire, le matériel à prendre ou ne pas prendre, faire attention au niveau du poids, parce que comme disait Patricia tout à l'heure, c'est beaucoup de marches, beaucoup de distance, beaucoup de temps de trajet, et donc du coup, le poids fait qu'après ça devient compliqué de pouvoir tout transporter pendant un trek. Alors on parlait tout à l'heure d'une dizaine de jours sur place, parce qu'il faut compter à peu près 2 jours de transport, une dizaine de jours c'est long, mais en même temps très court pour le réalisateur, parce que pouvoir arriver à capter toutes les informations qu'on veut pour un film qui durera entre 40 et 50 minutes, un film documentaire, la difficulté, c'est de pouvoir être en immersion dans la famille. Donc ça, c'est quelque chose, c'est difficile dès la première journée de pouvoir déjà être intégré dans cette famille et de pouvoir filmer sans problème de timidité, de gêne ou autre. Donc ça prend un petit peu de temps pour eux comme pour nous. Donc il y a ce travail-là, le travail aussi, on sera en novembre, donc il fait froid. C'est le début de l'hiver, si je me trompe pas, à peu près. Donc, c'est des températures, on sera autour des 3000 mètres. Donc, pour des batteries, c'est compliqué, il faut en avoir en plus. Il faut pouvoir gérer tout ça, gérer aussi que, pendant les 12 heures de transport, il y a beaucoup de poussière. Ça, je l'ai déjà vécu la dernière fois, parce que c'était à peu près les mêmes routes. Donc, les objectifs pleins de poussière, des choses comme ça. Donc, faire très attention au niveau du matériel, au niveau de tout ça. Le son, le micro, c'est très important. Il y a toutes ces choses-là, mais on y travaille déjà dessus, on est en train de se préparer. Le fait de filmer seul, Patricia et Irina m'ont déjà proposé de m'aider un petit peu sur place pour prendre le son, des choses comme ça. Donc il y a ce travail-là où je les forme un petit peu pour pouvoir m'aider sur le terrain. Et puis ça va être un travail d'équipe, mais c'est le genre de projet qu'on n'oublie pas. C'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, parce que c'est des projets passionnants.
On a beaucoup parlé de la préparation et d'avant le voyage. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, Irina et Patricia, du retour, puisque vous avez déjà eu l'occasion de partir? Comment ça se passe aussi pour le moment où on revient? Est-ce que l'acclimatation n'est pas trop compliquée? Est-ce que vous voulez parler de cette étape-là?
Si, c'est très très compliqué. Oui, parce qu'on est, on n'est pas dans le même monde. C'est vrai que ça bouge beaucoup, on est très intense, on est entouré beaucoup d'enfants, c'est pas du tout la même énergie. Et quand on rentre, on se retrouve un peu dans le calme, on se pose. Et c'est là qu'on se retrouve face à face à soi-même, à nouveau, une fois de... Et avec toute la rétrospection par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est pas... Oui, c'est pas toujours simple.
Oui, c'était très compliqué en mars. On s'est retrouvés une période dans la vallée du Haut-Verdon où il ne se passe rien du tout. Et on arrivait d'une vallée où il y a beaucoup d'enfants, à peu près 20 000 personnes dans cette vallée. Nous, on est 1200, je pense, au maximum. Donc, on s'est retrouvé à un moment où il neigeait encore, et puis chacun est chez soi. Donc, c'était vide, et on revenait d'un endroit où les anciens visitent leurs enfants. Les enfants sont partout. On s'est dit, mais on s'en va. On reprend nos affaires, on retourne au Népal. On était bien là-bas.
C'est vrai, c'est vrai.
On était vraiment complètement déphasés. On ouais. se sentait.
Oui, parce qu'il y a une déconnexion qui est difficilement explicable quand on n'y est pas sur place. Mais. Que ça soit quand on est allé en Inde ou dans l'Himalaya, il y a une déconnexion qui est assez impressionnante. Et en fait, quand on rentre, on retourne dans la vie active. On fait, et donc, c'est assez compliqué de pouvoir de gérer ça au début. Donc, ça prend du temps de se réadapter.
C'est l'Europe. On sent qu'on a changé de monde.
Même la nourriture, elle change. Donc, il y a les habitudes qu'on a déjà instaurées par rapport à la nourriture. Mais on dit, mais on retrouve où les momos?
Par contre, on s'est jeté sur les légumes. On est arrivé, on s'est dit des fruits, des légumes, parce que là-bas, on doit faire attention. Donc, on mangeait des choses un peu répétitives, mais bon, c'était pas un problème. Mais c'est vrai que quand même, certaines choses, on se rend compte qu'on a, ça manque quoi, des fruits frais.
Ouais, c'est pas. C'est... Ouais. Et surtout que c'est vrai que quand on fait les rencontres comme Dalai Lama, c'est vrai que c'est encore les énergies tellement puissantes que quand on rentre et quand on nous demande oh, alors comment ça se passait, et c'est tellement. Bah, c'est inexplicable avec les mots. Il faut le vivre, il faut y aller. Donc allez-y, faites-le, vivez-le. Moi, je ne pourrais pas vous dire parce que moi, c'est nous qui avons vécu ça, mais faites-le, vous.
Ce qui reste, c'est qu'on a tous les trois envie d'y retourner et que, voilà, on pense qu'à ça. On est tout le temps dans l'idée, on va retourner au Népal, on va sûrement retourner en Inde, on a d'autres projets sur le long terme, donc ça nous habite. Maintenant, on est habité par quelque chose de très puissant, très...
Et puis quand Patricia et Irina racontent ce retour qui est quand même pas facile au niveau, pour l'expliquer aux personnes qu'on rencontre, on comprend totalement que, en tant que réalisateur, pour arriver à faire ressortir les émotions aux futurs spectateurs qui regarderont le documentaire, ça va être un gros travail de tournage, mais aussi de post-production pour trouver les bonnes musiques, les bons témoignages et tout ça. Donc, c'est du travail.
Ouais, mais bon, c'est le travail qui se récompense et surtout aller voir aussi nos vidéos avec les enfants, avec les écoles sur Facebook. Et c'est vrai, il faut le voir au moins. C'est bien entendre, c'est bien, mais c'est bien aussi de le vivre un peu à travers les vidéos parce qu'on était filmé aussi par France 3 récemment. Donc, on a fait un petit reportage au sujet de Cagnotte qu'on a lancé au sujet de projet. Donc, vous pouvez aussi le retrouver sur le Facebook et sur Instagram.
Oui, on imagine que ce documentaire, il va jouer un rôle, apporter encore une autre dimension à ce prochain voyage qui permettra aussi peut-être à celles ou ceux qui ne peuvent pas partir ou qui n'ont pas eu l'occasion de voyager un peu à travers le documentaire. Et puis, de votre côté, pour l'association France-Népal Connexion, j'imagine que vous aurez aussi du travail de votre côté pendant que Timothée s'occupera de la post-production. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de l'actualité de l'association et des prochains événements à retenir, prochaines actions ?
Oui. C'est vrai que là, s'active vraiment pour compléter notre cagnotte. C'est cette fameuse cagnotte. Donc, on s'active au niveau de... On a fait plusieurs activités. Donc, on organise des concerts de spectacles de musique classique. Donc, ça sera le 16 et le 22 dans notre vallée. Donc, c'est le Rachmaninov.
16 et 22 août.
Août, oui, 16 et 22 août. Le spectacle de musique classique, un pianiste avec les études de Rachmaninov. Après, on a fait quand même les animations pour les enfants.
On était sur le trek des Mélèzes comme bénévole là, pour des maquillages. On fait souvent des interventions de maquillage. On va en refaire sur Alos le 6 août.
6 août, oui.
Et pendant les médiévales, nous sommes présents sur des stands devant le gîte Gassendi, je pense.
Oui, le gîte de Gassendi.
Voilà, pour proposer aussi des maquillages pour les enfants, un peu dans l'esprit de... des fêtes médiévales, des 30 ans des médiévales à Colmar qui doivent être très belles.
Ouais. Voilà. Et bah, tous les bénéfices, bah, évidemment, ouais, ça ira dans notre cagnotte.
Et des conférences que nous avons.
Oui.
On est en train d'en programmer une à Manosque pour pouvoir parler de notre projet, montrer un peu, parce que j'ai fait pas mal de portraits photos quand on était en Inde et aussi quand j'étais au Népal, donc on va présenter tout ça. Donc on va en faire une à Manosque, on va en faire une à Colmar, on est en train de voir pour Alos aussi d'en faire une, et voilà, on est ouvert d'ailleurs à si certaines villes veulent qu'on fasse des conférences.
Ouais,
voilà, on part fin octobre. Donc d'ici là, on essaye de faire un maximum de conférences et d'interventions, d'événements, des brocantes, des voilà.
Merci à tous les trois. Je crois qu'il nous reste à renvoyer les auditeurs et auditrices vers donc, le site internet france-népal-connexion.com et également nous mettons évidemment en ligne le lien de la cagnotte pour ce voyage. Donc vous partez... début octobre, c'est ça ?
Fin octobre, vers le 28 à peu près.
Fin octobre. Pour la participation à la cagnotte, quelle est la date limite ?
Ah, ce sera de mi-septembre.
Voilà, jusqu'à mi-septembre, donc on peut participer à cette cagnotte pour le départ qui se fera fin octobre. Merci beaucoup
à tous les trois.
Merci à vous. Merci de nous avoir un peu fait voyager aussi depuis le studio de radio. Et puis, en tout cas, on vous souhaite de bons préparatifs et un bon voyage.
Merci.
Merci et bonne journée à tous les auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral.